VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 3 mai 2022, en direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Nathalie Barge.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, la junte au pouvoir dénonce les accords de défense avec la France et ses partenaires européens.
Human Rights Watch accuse les paramilitaires russes de meurtre et torture sur des civils en Centrafrique.
La communauté internationale doit investir pour aider l'armée du Niger face au groupe djihadiste, estime le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
La France exprime son attachement à la tenue dans les meilleurs délais possibles d'un dialogue de réconciliation au Tchad au lendemain de son report s'inédier.
Au Cameroun, enlèvement d'une sénatrice du parti au pouvoir par des indépendantistes en zone anglophone.
En Ukraine, Odessa est à nouveau prise pour cible, tandis que Washington craint des annexions russes. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La junte au pouvoir au Mali a annoncé lundi soir rompre les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre Bamako et ses anciens alliés dans le combat contre les djihadistes.
Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a fustigé les atteintes flagrantes de la part des forces françaises présentes dans le pays à la souveraineté nationale et de multiples violations de l'espace aérien malien.
Mettant à exécution une menace brandie depuis des mois, les autorités militaires ont annoncé dénoncer les accords de statut des forces fixant le cadre juridique de la présence au Mali des forces françaises Barkhane et européennes Takuba, ainsi que le traité de coopération en matière de défense conclu en 2014 entre le Mali et la France.
Les crispations se sont aggravées à mesure que la junte se rapprochait de la Russie. La France et ses alliés accusent les autorités maliennes de s'être assurées les services de la société privée russe controversée Wagner. Le gouvernement conteste et parle de collaboration ancienne d'État à État.
La société paramilitaire privée russe Wagner est présente au Mali et en Libye sur une base commerciale. C'est ce qu'a affirmé hier Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Le point avec Jacques Aristide.
Dans un entretien avec la télévision italienne Mediaset, le chef de la diplomatie russe est catégorique. Sergueï Lavrov maintient que Wagner n'a rien à voir avec l'État russe. D'après lui, Moscou a donné des explications à Paris à ce sujet quand le gouvernement français est devenu nerveux, dit-il, car Wagner a signé un accord avec le gouvernement du Mali pour la fourniture de services de sécurité. En septembre 2021, mon cher collègue Jean-Yves Le Drian et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, m'ont dit directement que la Russie n'avait rien à faire en Afrique, ni par des moyens étatiques, ni par des moyens privés, car l'Afrique est une région d'intérêt de l'Union européenne et de la France, affirme le ministre Lavrov. Réputé proche du président Vladimir Poutine, le groupe Wagner est accusé d'employer des mercenaires au Mali, en Libye et en Syrie. Nous avons également expliqué qu'en Libye, cette compagnie militaire privée a été invitée par les autorités à Tobrouk, où se situe le Parlement, indique Sergueï Lavrov. Ils sont présents là, sur une base commerciale, de même qu'au Mali, ajoute le chef de la diplomatie russe. Le gouvernement de Bamako évoque pour sa part la présence sur son territoire de simples instructeurs russes.
Dans un rapport publié ce mardi, Human Rights Watch estime que des preuves convaincantes démontrent que des paramilitaires russes soutenant le pouvoir en Centrafrique y ont commis de graves abus sur des civils, dont des meurtres et tortures en toute impunité depuis 2019. Des forces identifiées par des témoins comme étant russes semblent avoir sommairement exécuté, torturé et battu des civils depuis 2019, dénonce l'ONG de défense des droits de l'homme.
Sollicité par Human Rights Watch sur les accusations du rapport, ni le gouvernement centrafricain ni le ministère russe des Affaires étrangères n'ont donné suite, selon l'ONG. Moscou affirme que les paramilitaires russes sont des instructeurs militaires non armés chargés d'entraîner les soldats centrafricains.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé hier à Niamey que la communauté internationale doit investir à fond pour aider l'armée nigérienne à combattre les groupes djihadistes. Le point avec Michel Joseph.
La communauté internationale doit investir à fond dans le renforcement des capacités de l'armée du Niger, a déclaré Antonio Guterres lors d'un point de presse à Niamey avec le président Mohamed Bazoum. Cet investissement doit concerner, selon lui, les équipements et l'entraînement de l'armée nigérienne. Alors que les attaques terroristes continuent d'augmenter dans le Sahel pour s'étendre vers les États du Golfe de Guinée, la communauté internationale doit réaliser que ce n'est plus seulement une question régionale ou africaine, mais bien une menace globale, a noté le secrétaire général de l'ONU.
La France a exprimé hier son attachement à la tenue, dans les meilleurs délais possibles, d'un dialogue de réconciliation au Tchad. La junte a annoncé dimanche le report sine die de ce dialogue. Le point avec Rosine Mounezero.
La France rappelle son attachement à la tenue, dans les meilleurs délais possibles, d'un dialogue intégrant toutes les forces politiques et sociales de la nation tchadienne dans un climat propice à la recherche du consensus, a déclaré lundi la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Le Conseil militaire de transition a annoncé dimanche le report de ce forum qui était prévu à partir du 10 mai, à la demande du Qatar, médiateur d'un pré-dialogue entre la junte et les innombrables groupes rebelles tchadiens. Après la mort du président Idriss Déby Itno, il y a un an, son fils Mahamat Idriss Déby Itno, jeune général de 37 ans, a été proclamé par l'armée président de transition à la tête d'une junte composée de 15 généraux. Ce conseil militaire de transition a immédiatement dissous le Parlement, congédié le gouvernement et abrogé la Constitution tout en promettant des élections libres et démocratiques après une transition de 18 mois à l'issue d'un dialogue national inclusif.
Au Cameroun, une sénatrice du parti au pouvoir a été enlevée samedi par des indépendantistes dans le nord-ouest anglophone du pays. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Elisabeth Regina Mundini a été kidnappée à Bamenda. Elle se rendait à son village pour assister à un enterrement. Les séparatistes l'ont enlevée sur la route, ainsi que son chauffeur, selon les services du gouverneur de la région et un responsable de l'armée. Deux branches du mouvement séparatiste revendiquent l'enlèvement. L'une exige la libération de quelques 40 détenus et l'autre demande une rançon. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, la sénatrice Regina Mundi lit un texte en anglais réclamant l'indépendance de l'Ambazonie, une république autoproclamée par des séparatistes. Originaire du Nord-Ouest, la sénatrice Regina Mundi est membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, au pouvoir. Les séparatistes, comme les militaires, sont souvent accusés de commettre des crimes contre les civils. En janvier dernier, le corps d'un sénateur de l'opposition, l'avocat Henri Kemende, a été retrouvé criblé de balles à Bamenda après l'attaque de sa voiture qui avait disparu. Les autorités avaient accusé les séparatistes, mais ce meurtre n'a pas été revendiqué.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a repris lundi ses frappes sur Odessa, la grande ville portuaire du sud de l'Ukraine, avec un tir de missile qui a fait au moins un mort, alors que les États-Unis accusent Moscou de vouloir annexer deux territoires séparatistes pro-russes dans l'Est.
À Mariupol, ville martyre quasiment conquise par les Russes dans le sud-est, après des semaines de siège, les évacuations de civils entamées ce week-end et attendues toute la journée lundi semblaient marquer le pas. Et puis le Premier ministre britannique Boris Johnson s'adresse aujourd'hui au Parlement ukrainien par visioconférence, une première pour un dirigeant occidental depuis le début de la guerre.
L'Union européenne refuse de payer ses achats de gaz à la Russie en roubles et doit se préparer à une rupture dans ses approvisionnements, ont averti la Commission européenne et la présidence française du Conseil à l'issue d'une réunion d'urgence des ministres de l'énergie des 27 à Bruxelles.
La Cour suprême des États-Unis s'apprête à annuler l'arrêt historique de 1973 dans lequel elle a reconnu le droit à l'avortement, a assuré lundi le journal Politico qui s'appuie sur une fuite inédite de documents.
Le quotidien dit s'être procuré l'avant-projet d'une décision majoritaire rédigée par le juge conservateur Samuel Alito et datée du 10 février qui doit encore faire l'objet de négociations jusqu'à sa publication avant le 30 juin.
La Minute Éco, Eric Manera Kidza.
Les services des impôts de la Côte d'Ivoire ont réalisé un écart positif de plus de 35,3 millions de dollars au premier trimestre 2022. Selon la directrice générale adjointe des impôts, plus de 1,17 milliard de dollars ont pu être collectés par les impôts comme recettes brutes, ce qui représente 3% de plus que les prévisions. De plus, ces recettes sont en hausse de près de 13% par rapport à celles de l'année 2021. L'État sénégalais est de nouveau appelé à la rescousse par la compagnie électrique nationale Senelec dans le sillage de la flambée des prix des hydrocarbures sur le marché mondial. Le président de la commission de régulation du secteur de l'énergie a annoncé que l'État sénégalais doit lui verser une compensation de 170 milliards de francs CFA. Il y a 3 ans, Dakar devait 247 milliards de francs CFA à la Senelec. Le cercle des millionnaires africains s'est agrandi en 2021. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Maroc et le Kenya concentrent désormais plus de 50% des fortunés du continent, mais de nouveaux pôles comme Maurice ou le Rwanda émergent. En 2021, l'Afrique comptait 136 000 individus fortunés ayant au moins 1 million de dollars, soit une fortune cumulée de 2100 milliards de dollars, selon l'étude rendue publique la semaine dernière. La dominance de la nation arc-en-ciel est sans appel. L'Afrique du Sud abrite 2 fois plus de millionnaires que tout autre pays africain, tandis que l'Égypte est le pays qui compte le plus de milliardaires sur le continent.
Merci Eric. À présent, les sports avec Nani Talani.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Les Léopards de la République démocratique du Congo seront en stage de 12 jours en Algérie du 2 au 14 juin pour préparer le championnat d'Afrique des Nations en 2023 à l'occasion d'un tournoi amical regroupant 4 pays. Les Léopards joueront contre le Sénégal le 5 juin, l'Algérie le 10 juin et enfin le Mali. Une délégation de la FIFA a commencé sa visite dans chacune des 9 villes hôtes de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour la première étape, la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, Dave Beach, PDG de cette compétition, et Jeanne Fernandez, directrice des opérations, sont à Brisbane en Australie depuis vendredi pour rencontrer des acteurs du sport et du tourisme. Ils ont visité le stade de Brisbane d'une capacité de 52 500 places et qui a déjà accueilli plus de 18 millions de spectateurs et plus de 750 grands événements sportifs nationaux et internationaux, dont la Coupe d'Asie de l'AFC 2015 et la Coupe du monde de rugby 2003. Brisbane accueillera aussi les Jeux olympiques et paralympiques de 2032 après avoir hébergé les Jeux du Commonwealth en 2018. Terminons par les clubs russes qui ne disputeront pas les compétitions européennes, à savoir la Ligue des Champions, la Ligue Europa ou encore la Ligue Europa Conférence en 2022-2023, a annoncé lundi l'UEFA, qui a par ailleurs décidé de remplacer la Russie par le Portugal pour l'Euro 2022 féminin, qui se déroulera du 6 au 31 juillet en Angleterre. Cette mesure vient renforcer la mise à l'écart du football russe, déjà exclu fin février par la FIFA du Mondial 2022, pour lequel la sélection russe masculine, quart de finaliste du Mondial 2018 organisé en Russie, pouvait encore se qualifier. La Fédération russe de football a retiré le 30 mars son recours contre la décision de la FIFA de bannir sa sélection des compétitions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, le Conseil militaire de transition vient donc de reporter s'inédit le dialogue national inclusif prévu pour le 10 mai. C'est sur la demande du Qatar qui abrite les travaux du pré-dialogue entre les groupes rebelles et le gouvernement de transition. André Kodmajingar, notre correspondant à N'Djamena, a recueilli ses réactions d'acteurs politiques tchadiens.
C'est pas étonnant. Déjà, le pré-dialogue est un échec parce que dès le début, on a multiplié les politico-militaires fictifs. On sait que les vrais ne sont pas 10, donc on a voulu noyer ce pré-dialogue. Il n'y avait ni agenda, ni critère de participation.
Edmra Cordier, porte-parole du groupe de réflexion et d'action pour l'appel du 1er juin. L'ancien journaliste et membre du comité d'organisation du dialogue national inclusif, François Ndjekombe, n'est pas de cet avis.
On ne peut pas s'exprimer en termes d'échec des pourparlers à Doha. Les gens ne sont pas allés à Doha pour régler un problème de foyer. C'est pour régler un problème de pays avec des groupes rebelles qui, eux aussi, ont des ambitions toutes légitimes de pouvoir venir diriger le pays. On avait minimisé un peu cette dimension-là. Donc, moi, je pense que ce n'est pas que les choses n'ont pas marché à Doha, que le dialogue a été reporté, mais c'est vu un peu la complexité du problème et les enjeux également. C'est ça qui a fait que, éventuellement, de part et d'autre, personne ne voudrait très rapidement poser sa ceinture sur un accord signé pour dire que non, j'ai signé un accord de paix.
Par contre, pour Ahmad Yacoub Dabu, responsable d'un centre pour le développement et la prévention contre l'extrémisme, c'est un échec parce que le processus dans son ensemble est mal parti dès le départ.
Les conflits datent de 6 décennies. Il faut prendre le temps nécessaire pour le gérer. On ne peut pas se précipiter. Mais cela pourrait affecter le délai de transition. Mais ce n'est pas grave. Il faut penser à dissoudre ces nombreuses structures qui ont échoué. Il faut dire le mot. C'est un échec. Et surtout revoir la délégation qui était en charge du pré-dialogue. Et il faut aussi la dépolitisation et la désécurisation du dossier, puis former une équipe restreinte de négociateurs composée de professionnels.
La coordination des actions citoyennes Wakitama a quitté le processus accusant de mauvaise foi les autorités de N'Djamena. Une marche pacifique est prévue pour le 10 mai à cet effet. Maître Max Loalngar est le coordonnateur du mouvement Wakitama.
Nous en prenons acte, mais nous voulons attirer l'attention sur le fait que ce report ne devrait pas servir de prétexte pour la prolongation de la transition. Nous maintenons notre position. La marche aura bel et bien lieu. Ça va servir de lancer des alertes pour la suite des opérations.
Le porte-parole du groupe de réflexion et d'action pour l'appel du 1er juin, Bedoumra Cordier, pose des conditions à l'organisation d'un dialogue sincère.
S'il y a un dialogue, c'est un dialogue sur la question essentielle de la refondation de l'État tchadien et qui va donc s'accompagner de la constitution, des lois électorales, de tout ce qui doit aller avec cette refondation pour que le Tchad reparte sur une nouvelle base.
André de Madingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Nigeria, la décision du parti présidentiel APC, the All Progressive Congress, de vendre ses formulaires de nomination présidentielle à 100 millions de naira provoque des réactions dans le pays. Beaucoup de Nigérians sont choqués car pour eux, cela va encourager davantage encore la population, la corruption. Un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Depuis l'annonce de la décision du parti présidentiel, les commentaires et critiques ont inondé les réseaux sociaux, notamment Twitter, pour dénoncer le prix jugé trop exorbitant des formulaires de nomination fixés par l'APC du président Muhammadu Buhari. Les candidats à la présidence du parti devront payer 100 millions de naira, soit près de 240 000 dollars américains pour les formulaires de nomination, tandis que pour les postes de gouverneur, les frais sont fixés à 50 millions de naira, l'équivalent de 120 000 dollars. Réaction de Fête Mouadidji, activiste, et Faiza Nazir, une habitante d'Abuja, qui sont toutes les deux scandalisées par cette décision.
Nous parlons d'un formulaire qu'il faut acheter à 100 millions de naira. Vous imaginez combien de personnes ce montant peut sortir de la pauvreté en un clin d'œil? Et vous demandez aux gens de payer 100 millions? Donc ce que nous disons, c'est que c'est devenu un investissement. C'est demander aux gens de venir investir parce qu'il y aura des bénéfices après.
C'est absolument scandaleux. Vous savez, certains de ces gens peuvent avoir le soutien des populations, mais ils n'ont pas cet argent. Considérant la situation économique actuelle, ce n'est pas facile de trouver 100 millions juste comme ça. Avec ça, vous n'achetez plus un formulaire pour contester un poste de la fonction publique que tout le monde a le droit. Mais c'est comme si vous achetiez un espace et vous n'êtes même pas sûr que vous remporterez l'élection.
Des millions de Nigériens sont choqués. Certains pensent que le coût exorbitant pour acheter un formulaire de nomination vise tout simplement à encourager la corruption. Soit on achète pour avoir un retour sur son investissement, ou bien c'est pour cacher un blanchiment d'argent. Emmanuel Wubiko est le président de l'Association nationale des écrivains des droits humains.
This 100 million naira price has been slammed.
Ce montant de 100 millions de naira fixé pour acheter un formulaire pour déclaration d'intention ou quoi que ce soit est la plus grande manifestation de la corruption. Parce que seuls ceux qui ont gagné de l'argent par des moyens illégaux peuvent gaspiller 100 millions de naira.
Ces critiques n'ont pas empêché les hommes politiques du parti APC désirer de remplacer Buhari à la tête du Nigeria, car deux ont déjà acheté leur formulaire. Yahya Bello, actuel gouverneur de l'état de Kogi dans le centre du pays.
J'accepte d'être candidat pour nous tous et de porter les couleurs de notre parti lors des élections et devenir notre prochain président.
Le président Buhari avait critiqué son parti en 2014, alors qu'il convoitait le ticket parce que les frais étaient fixés à 27,5 millions de naira, un peu plus de 66 000 dollars pour les formulaires avant les élections générales de 2015. Pour l'élection de 2023, le parti a augmenté les mêmes frais de plus de 200% par rapport à 2014. Les deux principales formations politiques sont accusées de transformer la fonction publique en un produit commercialisé et commercialisable à travers la tarification des formulaires de nomination, ce qui signifie pour d'autres Nigériens que les élections à des postes publics sont réservées aux plus riches. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Valoriser autrement le beurre de karité, c'est le défi que s'est lancé Ekoema Pierrette Tokensa. Juriste de formation, cette jeune entrepreneure togolaise, pourtant promise à une brillante carrière de magistrate, a fait le choix de reprendre l'affaire familiale consacrée à la vente de karité. Elle a mis en place une stratégie plus moderne qui associe la qualité, le packaging, la communication. Ce projet familial vise à offrir un cadre de vie plus agréable aux femmes productrices du beurre de karité. Un reportage d'Amen Assignon.
Au Togo, l'extraction du beurre des amandes de karité est un savoir-faire séculaire des femmes de la partie septentrionale du pays. Du décortiquage des amandes à la confection de la pâte jusqu'à l'obtention du beurre, tout est fait à la main. Un travail pénible qui demande patience et abnégation, mais qui rapporte peu aux femmes. Ekoema Pierrette Tokensa connaît bien cette réalité pour avoir grandi dans la tradition du karité. Sa mère a été l'une des premières femmes à vendre le beurre du karité du nord vers le sud du Togo. Pour perpétuer cet héritage, la jeune entrepreneure a décidé de reprendre l'affaire familiale en y apportant une touche de modernité avec sa marque de cosmétiques Tokensa. Elle produit du beurre de karité travaillé sous différentes formes et proposé en plusieurs senteurs. Elle explique sa démarche.
Tokensa, la marque, est réellement née parce que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de préjugés sur son utilisation et surtout une culture de dévalorisation d'un produit qui est hautement exploité et convoité ailleurs. J'ai tout simplement décidé de présenter ce que le beurre de karité représentait pour moi et pour des millions de productrices à travers l'Afrique.
Ce projet se fait de concert avec les femmes productrices de karité de sa famille. Il vise à soutenir leurs efforts en leur assurant une sécurité financière. Grande consommatrice de beurre de karité, Adjovi, une habitante de Lomé, est tout tombée sous le charme des produits Tokensa.
La marque fait du commerce équitable. Et au-delà des produits qu'elle vend, Il y a toute une histoire d'amour qui vous emporte.
Le beurre de karité se retrouve sous forme de boule dans les marchés du Togo. Son prix varie de 25 francs à 100 francs CFA selon la taille, ce qui est peu rentable. Avec son projet, Pierrette présente autrement son beurre de karité, mais en plus, elle y a ajouté une technique d'emballage plus attrayante associée à une bonne communication.
Il est important pour moi, à travers nos packaging par exemple, de valoriser ce que l'on a ici, sans toutefois compromettre notre identité et nos richesses.
La visibilité des marques locales est un élément essentiel dans la démarche commerciale d'un entrepreneur. Et pour renforcer leur positionnement sur le marché national et international, une bonne stratégie est indispensable. Les États ont un rôle à y jouer. Hospicecom est consultant en développement commercial.
Aujourd'hui, il est très important que l'État puisse s'impliquer davantage en initiant un comité stratégique de réflexion sur la question même du développement des marques locales.
Avec une telle stratégie, la marque de Pierrette Ekoema Tokensa est aujourd'hui l'une des plus prisées au Togo. Amena Sinon, Lomé pour la VOA.
À San Antonio, au Texas, édition 2022 des US Masters Swimming Nationals, l'un des championnats américains de natation. Eh bien, à la compétition cette année, Angelica Ouedraogo, nageuse burkinabé, résidant dans l'Oklahoma. Reportage de nos envoyés spéciaux Blanche Sanou et Yacouba Ouedraogo.
Le Burkina Faso est un pays enclavé, donc sans aucun accès à la mer. Pour la nageuse burkinabé, Angelica Ouedraogo, compétir à ce niveau aux États-Unis, c'est déjà une médaille émérite après sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. La pensionnaire des King Marlin Swim Club d'Oklahoma est arrivée deuxième et décroche la médaille d'argent. Elle est la première burkinabé médaillée dans ce championnat américain de natation.
Je me sens bien. L'objectif aujourd'hui, c'était de finir en force. Même si je n'ai pas battu mon record, je pense que c'est un bon retour pour moi. Le temps est bon, la technique était belle. Il y a encore du boulot à faire, mais c'était bien.
En plus de la brasse, Angelica Ouedraogo a participé dans les 50 nages libres. 100 000, 25 secondes 77. L'Américain Ralph Apurazzo a nagé dans la même catégorie chez les hommes. À 29 ans, ce natif de Pennsylvanie écume les piscines depuis l'âge de 6 ans et rêve d'une participation aux JO. Il est ici à San Antonio pour s'entraîner, lui qui a déjà participé aux essais de l'équipe olympique américaine pour Tokyo 2020.
Mes objectifs après l'université, je pensais plus à concourir pour les essais olympiques, donc j'ai fini par me qualifier l'année dernière pour les essais olympiques et nager dans la compétition. J'ai pu continuer ma natation tout au long et après l'université aussi.
L'un des moments forts cette année, c'est la présence dans la piscine de Charlotte Sandals. Elle aura 100 ans le 15 juin prochain. La plus âgée des nageurs a défié les 200 brasses, suscitant une ovation debout de tout le public. Charlotte a découvert la nage à 74 ans, après avoir pris sa retraite. Depuis, entre elle et la nage, c'est une histoire d'amour sans fin.
Ça me donne plus d'énergie. Ça agrémente ma journée. Cela me permet d'être focus.
Caroline, elle, a 60 ans, dont 35 ans de participation au championnat américain de natation.
La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je peux me sentir à nouveau comme un enfant. Je vois d'autres personnes âgées comme moi. Et nous ne nous sentons pas vieux. Nous sommes dans l'eau et l'âge ne compte plus.
Les championnats américains de natation constituent aussi un cadre de compétition pour des athlètes retraités comme Rick Colella, 77 ans. Cet habitant de Seattle, dans l'état de Washington, dans l'ouest des États-Unis, a participé aux JO de Munich en Allemagne en 1972 et a décroché le bronze à Montréal, au Canada, en 1976.
Les trois choses que j'aime vraiment dans la natation, parce que pourquoi j'aime le faire, sont l'amusement, la forme physique et les amitiés.
Initié en 1970, les US Masters of Swimming Nationals regroupent chaque année plus de 1800 nageurs professionnels et amateurs de 18 ans et plus, chacun dans sa catégorie d'âge. Le prochain rendez-vous est prévu en août prochain à Richmond, en Virginie. Yacouba Ouedraogo et Blanche Sanou, San Antonio, VOA Afrique.
Merci Yacouba, merci Blanche. C'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Nathalie Barge, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi, et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.